Le débat africain. Alain Foucault.
Elle devait apporter à manger de l'eau, du vin et de la liberté. Elle était perçue comme la solution pour en finir avec la pauvreté. Arrivée avec la bourrasque qui soufflait sur l'Europe de l'Est et touchait le continent noir dans ce début de la décennie 90, elle répondait à une grande soif de liberté des subsahariens. C'était l'option unique pour sortir les jeunes états de la dictature des grands timoniers indéboulonnables et ses partis géniques qui dictaient leurs lois. C'est pourquoi tous l'ont adopté, tous y ont adhéré comme on entre en religion. 31 ans après la chute du mur de Berlin et le sommet de la Bolle qu'il a instigé, qu'il a encouragé dans les territoires africains, même s'ils ne sont qu'un très petit nombre à s'interroger officiellement sur le principe, ils sont de plus en plus nombreux à se poser la question de savoir ce qu'il est advenu de la démocratie sur le continent. Devant la paupérisation, l'instabilité, les troubles politiques, malgré les élections frénétiques, devant le manque de développement, quelques voix, et pas des moindres, s'interrogent sur le bien fondé de la démocratie en Afrique. Est-elle vraiment adaptée aux Africains ? Sujet de passion, de division dans les milieux intellectuels, auquel le débat africain, qui est ce dimanche à Lomé au Togo en marge du colloque international Maître Yaoui Agboibor, consacré aux droits de l'homme, s'attaque aujourd'hui. Quel bilan dressé des 31 ans de démocratie en Afrique subsaharienne ? Plusieurs invités sur ce plateau. D'abord, Maître Pascal Agboibor, avocat d'affaires de renommée internationale, fondateur du prestigieux cabinet Asafo & Co. Bonjour Maître Pascal Agboibor.
Bonjour Alain Foucault.
Merci d'être là. Nous sommes dans votre pays, le Togo. Second invité, un autre avocat de renom, Robert Dossou, professeur, avocat au barreau de Cotonou, président de la Cour constitutionnelle du Bénin de 2008 à 2013 et ancien bâtonnier, actuellement avocat de Réki Amadougou et Joël Aïvo, soupçonnés d'être les instigateurs des affrontements violents qui ont opposé des manifestants anti-Patrice Talon aux forces de l'ordre avant le scrutin dernier. Les deux personnalités sont actuellement incarcérées au Bénin. Bonjour Maître Robert Dossou.
Bonjour Alain Foucault.
Merci d'être là. Merci. Notre troisième invité, seule femme de ce plateau, et je le déplore, on aurait souhaité en avoir un peu plus pour respecter la parité, Madame Germaine Kumwealo, Anaté, députée à l'Assemblée nationale, ancienne ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique du Togo. Elle est directrice du Centre d'études et de recherche sur les organisations, la communication et l'éducation, le CEROS. Elle est également enseignante et chercheure à l'Université de Lomé en sciences de l'information et de la communication. Bonjour Madame Germaine Kumwealo, Anaté.
Bonjour Alain.
Notre quatrième invité est une voix et une figure connue de notre antenne de RFI, Didier Akwete, président du cabinet Afrique Search, l'un des plus importants cabinets de chercheurs des têtes sur le continent. Il est également le coach que vous pouvez retrouver régulièrement dans l'émission 7 milliards de voisins sur notre antenne. Bonjour Didier Akwete.
Bonjour Alain Foucault.
Merci d'être là. Alors, je ne suis pas provocateur lorsque je dis, est-ce qu'on avait droit à la démocratie ? Est-ce que c'était le moment d'avoir la démocratie ? Là, je pose la question à Maître Robert Dossou. Je sais que ça va l'énerver tout de suite.
Non, je ne m'énerve pas dans toutes les circonstances. Je suis très calme. Vous parlez de la démocratie comme si c'était une nouveauté, une nouvelle invention que l'on vient jeter en pâture aux pauvres nègres africains. Nous étions dans l'aspiration profonde de la démocratie. Et pour ce qui concerne l'ancienne colonie française d'Afrique, nous avons été agréés à la démocratie dès la fin de la Première Guerre mondiale.
Nous
sommes arrivés à l'indépendance à travers la démocratie, un minimum de démocratie restreinte par le biais
de... Ah bon, vous appelez ça démocratie, ce qu'on avait avant, avec les grands timoniers dont je parlais à l'instant, avec les partis...
Non, je parle de la pré-indépendance.
Oui, juste un peu avant.
En 45-46, des mouvements balbutiants de partis politiques sont nés, nous avons
Absolument.
Été...
Avec le RDA et autres.
Etc. Et nous sommes arrivés à l'indépendance dans une mouvance démocratique. Mais aussitôt, maximum un an, un peu partout après la proclamation des indépendances, eh bien le resserrement a commencé. Au nom du développement, on nous a dit, on fait trop de politique, il faut développer les pays. Donc... Nous avons connu tous les partis unis, comme vous l'avez rappelé, et l'aspiration n'a jamais disparu.
Oui.
Et ce n'est pas le mur de Berlin qui nous a donné...
Mais c'est le mur de Berlin, on ne peut pas empêcher
non,
de penser que le mur de Berlin a plutôt...
Le mur de Berlin a empêché ceux qui voulaient s'appuyer sur l'Europe de l'Est pour essayer de maintenir les partis uniques.
Oui, mais il n'y avait pas que les pays qui s'appuyaient sur l'Europe de l'Est qui avaient les partis uniques.
Non, c'est tout le monde.
Pascal Agboibor, vous partagez ce point de vue, vous estimez que ce n'est pas arrivé comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu on va dire, de la part du mur de Berlin, puis le sommet de la Bolle, quelque chose qui a accéléré le mouvement, qui est venu répondre aux aspirations de la grande majorité des Africains qui voulaient un peu plus de liberté.
Écoutez, c'est toujours difficile de parler après.
Alors on va oublier le principe du coro, du grand frère.
Non, c'est pas une histoire de grand frère, parce que c'est une différence d'âge qui fait qu'il a été témoin avancé. Nous étions peut-être jeunes étudiants. Si on parle des années 90, j'étais jeune étudiant. Cela étant dit, je ne pense pas non plus, évidemment, que la démocratie comme un paquet a été livré en 1990. Non, il y a forcément, il y avait des ingrédients, des conditions, probablement nés de plusieurs éléments, fonds de frustration et donc d'aspiration montant progressivement. Et de l'autre côté, nos pays n'étaient pas dans des bulles fermées, il y avait un environnement international qui, et là pour le coup, je fais le lien avec ce qui s'est passé avec la chute du mur de Berlin et le vent de l'Est, si on veut, effectivement, à ce moment-là dans le monde, les pays qui étaient dans des environnements moins ouverts ont connu comme une coïncidence un déverrouillage de systèmes fermés, et par conséquent, il y a eu une coïncidence, mais nécessairement, il fallait les ferments nationaux, il y avait des situations nationales qui conduisaient, et c'est sans doute aussi ça qui est derrière la notion de pression dont on a parlé à un moment donné, des conditions de vie, des conditions d'exercice ou de constatation d'absence de liberté qui ont préparé les gens à accueillir précisément ce qui pouvait venir.
Il y avait une vraie aspiration.
Il y avait une vraie aspiration.
À la liberté. Absolument. Alors, 31 ans après, les gens se disent, où est donc cette liberté, puisque quand on regarde, les choses n'ont pas tellement changé, non?
Donc, moi, je voudrais revenir sur votre question, moi, qui me choque. Quand vous demandez est-ce qu'on avait droit à la démocratie, mais est-ce que nous avions droit à la dictature ou au système autoritaire? Parce que ça aussi, d'une certaine manière, ça a été imposé à l'Afrique. Et puis, qu'est-ce qu'on entend aussi par la démocratie? C'est comme si le système démocratique en Afrique est né juste dans les années 90. Le doyen est remonté plus loin, le maître de soi est remonté plus loin, mais moi je retournerai même dans nos systèmes traditionnels où nous avions des systèmes de gestion démocratique, mais qu'on nous a déniés. Moi je prends mon peuple que je connais, c'est vrai qu'il n'y avait pas des États, mais les peuples, chaque peuple avait son expérience. Moi mon peuple avait un système de gestion démocratique, mais vous lisez les archives coloniales, on les a traités d'anarchistes. Parce qu'il y avait un système horizontal de gestion, c'était le groupe des pères, les sages, etc. Il n'y avait pas de chefferie traditionnelle là-bas, en pays kabyle, on n'avait pas de chef traditionnel, il n'y avait pas un système vertical. Donc on nous a dénié ce droit, on nous a imposé autre chose, et puis à un moment donné on nous dit non, voilà, maintenant il faut passer à autre chose. Et j'ai aimé votre introduction, la démocratie, vous dites on est rentré dedans comme dans la religion. Effectivement, peut-être le problème vient de là, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas questionné. On n'a pas questionné cela. Certains Africains vont vous démontrer qu'en réalité, l'Occident même s'est inspiré de l'Afrique pour bâtir son système, ses systèmes démocratiques. Oui, et je leur dis, c'est vrai, mais ils ont moulé ça pour eux-mêmes, comme un habit qu'ils ont cousu pour eux-mêmes, donc dans leur modèle culturel, social, etc. Alors pourquoi nous ne questionnons pas ce système? Pourquoi on ne se l'approprie pas par rapport aussi à nos modèles? Même si les principes, il y a une convergence, il y a des principes qui sont universels, ces principes ne sont pas désincarnés, c'est adapté, c'est contextualisé.
Il y a côté.
Non, absolument, je crois que ce qui vient de se dire est tout à fait l'illustration que l'expression démocratique a toujours existé en réalité en Afrique. Lorsque des chefs traditionnels sont bannis, exilés, c'est une expression démocratique. Lorsque le Conseil des sages est consulté pour des décisions, c'est une expression
qui très souvent était un nombre impair pour qu'on obtienne une majorité.
Absolument. Donc, la démocratie ou l'expression démocratique, c'est-à-dire le choix des dirigeants par le peuple et la sanction par le peuple, a toujours existé. Peut-être ce que nous vivons, c'est la juxtaposition de ce qu'on appelle la démocratie moderne institutionnalisée avec nos pratiques et justement une époque coloniale qu'il ne faut pas oublier, qui vient se superposer à des pratiques qui existaient déjà. Et c'est peut-être là qu'il y a une rupture, parce qu'il aurait peut-être fallu, comme le dit si bien madame, questionner nos pratiques et instaurer des règles qui correspondent à nos cultures. En l'occurrence, si vous voulez, sans faire de grands discours, la pratique démocratique, c'est simplement l'expression des populations pour choisir leurs dirigeants. C'est aussi simple que
mais est-ce
ça.
Est-ce qu'on n'a pas avec finalement réduit simples. La démocratie telle que, on peut dire ce qu'on veut, telle qu'on l'a imposée ou plutôt telle qu'on l'a proposée en 90, au chef, au remplacement du chef, qui représentait un peu le mal-être de la plupart des gens, puisque ça s'est incarné par le fait qu'il fallait faire partir le président de la République dans la plupart des États.
C'était simplement pour légitimer des dirigeants qui ne pouvaient plus rester au pouvoir, qu'on a fait cet habillage démocratique et institutionnel que nous vivons encore aujourd'hui. Parce que l'élection, en soi, n'est pas simplement l'expression de la démocratie. Les institutions qui gouvernent les pratiques démocratiques, dès qu'elles sont violées, il n'y a plus de démocratie.
On va arriver à ça dans un instant. Mais là, ce qu'on est en train de comprendre, c'est qu'on se dit, la démocratie telle qu'elle est arrivée, est-ce qu'elle n'a pas du mal à véritablement rentrer dans notre mode de fonctionnement parce qu'elle ne s'adapte pas à l'environnement?
J'ai du mal, Alain Foucault, avec cette formulation de la question. Mm-hmm. Comme si, et je suis sûr que ce n'est pas ça que vous avez voulu dire, comme si l'Afrique n'était pas adapté ou un réceptacle adapté.
Ça n'est pas de moi. Je paraphrase un ancien président français, Jacques Chirac, qui disait qu'on n'était pas mieux pour la démocratie.
Et c'est bien pour cela que je préfère réagir. Je m'inscris en faux à cela. En tout cas, je suis de ceux qui considèrent que c'est une totale aberration, une insulte que de penser à cela. Si on retourne aux fondamentaux de la démocratie, la définition peut être complexe, mais il y a quelques principes simples, et notamment le principe fondamental. C'est l'aspiration à la liberté et le souhait de déterminer autant que possible son quotidien dans le respect des règles communes. Je ne pense pas qu'il y ait là quoi que ce soit qui soit possible en Grèce, en France, en Angleterre et pas en Afrique. Je vais vous dire, je pense fondamentalement que, en reprenant votre question de départ, le bouillonnement, dire l'enthousiasme du début des années 90 et la déception constatée 30 ans plus tard, parce que c'était ça la question de départ, je pense que ça a à voir plutôt avec l'inconsistance des gens ou de nous-mêmes, si nous nous incluons là-dedans. C'est-à-dire le fait que, délibérément, nous n'avons pas voulu respecter les règles élémentaires que l'instauration de la démocratie impliquait.
Mais là, je vous interromps pas, mais lorsque vous dites respecter les règles élémentaires, ça veut dire que vous pensez aussi qu'il y avait des règles qui devaient venir d'ailleurs, qui devaient s'imposer.
Pas nécessairement venues d'ailleurs. Il y a une notion fondamentale pour moi, peut-être que c'est le juriste qui est un peu aux prises avec sa formation. Les notions d'incompatibilité qu'on trouve par exemple dans les textes, je pense que ce sont des notions fortes. Pourquoi on instaure des incompatibilités? Parce qu'on ne veut pas que des gens trichent, parce qu'on ne veut pas que des gens profitent d'une position pour obtenir des droits qui créent probablement des ruptures, des inégalités par rapport à d'autres. C'est un principe simple et pourtant d'une puissance inqualifiable. Les questions les notions de conflit d'intérêts, par exemple, c'est la même chose. Donc, quand je parle de règles, ce n'est pas des règles importées, c'est simplement une notion simple de juger parti. Dans n'importe quelle civilisation, on accepte l'idée que les dés sont pipés si une personne est dans la position de juge et de parti. Je ne crois pas que ce soit propre à l'Europe, à l'Asie ou à l'Afrique. C'est du bon sens. L'exercice intéressant qu'il aurait fallu faire ces 30 ans plus tard, c'est quoi? Quels sont les principes simples qui sont inhérents à la démocratie et avec lesquels nous avons joué précisément parce qu'on n'a pas respecté ces règles qui sont essentielles?
Je pense que nous posons très mal le problème. Il faut recentrer les termes de la problématique de la démocratie. On ne peut pas aborder la démocratie sans certains préalables. Car la démocratie est un mode de mise en œuvre du pouvoir politique et un mode de fonctionnement de l'État. On ne peut pas disserter sur la démocratie lorsqu'on n'appréhende pas exactement l'État. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique au moment de nos indépendances ? L'administration coloniale nous a laissé un appareil et nous avons élu des gens pour gérer cet appareil. Est-ce que cet appareil, dans son agencement d'ensemble, était perçu comme un État, c'est-à-dire une institution indépendante des individus qui sont appelés, des individus hommes, femmes, qui sont appelés à gérer cet appareil? Je réponds non. L'État africain n'est pas un État consolidé. C'est une machine, un appareil, ce qui fait que celui qui a le pouvoir ou la quelconque fonction considère cette fonction comme lui appartenant pendant le temps qu'il est titulaire de la gestion de cette fonction.
Mais ce n'est pas le propre de l'Afrique. Hein. On le voit en Asie, on le voit dans d'autres régions du monde.
Non, attention, il faut distinguer. L'Asie a été colonisée, mais l'Asie a gardé un noyau culturel plus fort que nous, nous l'avons gardé en Afrique. Nous nous sommes laissés entraîner très plus facilement dans ce complexe, ce que moi j'appelle ce complexe d'extranéité, où nous avons nous-mêmes laissé partir certaines de nos traditions que nous essayons tant bien que mal de rattraper. Nous sommes encore en apprentissage de la démocratie. Et c'est ce qui explique que 30 années après, on se pose des questions. 30 années après, on s'effarouche, on dit il y a trop de partis politiques, il y a ceci qui ne marche pas. Mais c'est tout à fait normal. Nous sortons de je ne sais combien de décennies de partis uniques.
Madame Koumialo.
Oui, bon, je pense que peut-être que chez nous en Afrique, il y a de vraies et fausses urgences qui font que voilà, on ne voit pas vraiment l'essentiel ou on ne se donne pas le temps et les moyens. Vous dites 30 ans, c'est peut-être grand, mais ce n'est pas assez. C'est un processus qui demande du temps. Je ne veux pas nous comparer même à l'Occident où ils ont mis des siècles pour bâtir leur démocratie. 30 ans, qu'est-ce que c'est? D'autant plus que nous savons que les ruptures sont arrivées avec une telle violence, une telle agressivité, parce qu'il y avait ces urgences-là d'en découdre avec les systèmes totalitaires, avec la pauvreté, etc., etc. Donc, on n'a pas mis l'accent, en tout cas en Afrique de l'Ouest que je connais bien, sur l'explication, sur la formation politique de la vie démocratique. Il y a beaucoup de militants de nos partis qui ne savent rien de ce dont nous parlons lorsque nous parlons de démocratie. On est encore à l'étape où c'est telle personne, parce que c'est telle personne, donc je suis la personne. Ce n'est pas un projet de société. Donc on est dans l'apprentissage.
Oui, mais est-ce que dans cet apprentissage-là, on ne prend pas un peu de retard? Est-ce qu'on
le
ne doit
retard,
pas
c'est
aussi...
Par rapport à quoi? Par rapport à qui et par rapport à quoi? C'est ça les fausses urgences dont je parle. Et c'est ça qui nous retarde. Parce qu'on ne met pas les bases, les fondements qu'il faut.
Mais moi, je vais à nouveau, peut-être très respectueusement, exprimer un désaccord de fond. Je pense fondamentalement que c'est une excuse que nous nous offrons que d'affirmer que nous ne sommes pas prêts et que nous sommes en apprentissage. Et peut-être qu'il nous faut encore quelques siècles avant d'arriver à instaurer des principes démocratiques. Mais d'ici là, est-ce que nous serons encore survivants? Je pense qu'il y a un problème. Je pense aussi que ce dont on parle dépend de la culture, de l'éthique, des ambitions et plus généralement de la volonté des hommes et des femmes qui incarnent les institutions ou qui sont en première ligne des mouvements dont on parle. Et moi, je veux prendre deux exemples. Premier exemple, nous sommes au Togo et nous sommes entourés du Ghana et du Bénin. Ce sont des pays qui ont eu des élections régulièrement avec des résultats et des alternances. Les mêmes peuples, même culture, certains sont prêts, au moins sur le plan des élections, à faire des élections avec de temps en temps l'alternance. Je pense qu'il y a un sujet. Le deuxième exemple, il me semble, et je ne serai pas trop long, c'est ce qu'on a vu récemment aux États-Unis. Voilà un pays qui... jusqu'à récemment, je pense,
et le chantre de la
inspirait le monde comme un des bastions de la démocratie avec l'Angleterre. On a vu, on était effarés d'apprendre que, comme ça se passerait dans telle république africaine, il y a un gros soupçon de bulletins planqués. Et quand c'est pas ça, c'est des groupuscules qui sont prêts à foncer sur, à en découdre avec les institutions pour empêcher la proclamation de résultats. Je pense que ce qu'il nous revient tous à faire, c'est probablement de revenir vers l'humain. En quoi ils, donc les hommes et les femmes, ont saisi la responsabilité qui est la leur.
On va y revenir, René Dossou, dans la deuxième partie de ce débat africain consacré ce dimanche à Lomé, au modèle démocratique africain. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur RFI, dans 10 minutes exactement. Restez à l'écoute et à très vite.
Le débat africain, Alain Foucault.
Jusque-là, personne n'osait la critiquer ouvertement. On l'évoquait presque comme un principe religieux. Depuis quelque temps, confronté aux crises politiques, aux guerres post-électorales, à la confiscation du pouvoir par quelques-uns qui le font toujours en son nom, à l'instabilité chronique, à la résurgence des grands timoniers, des dirigeants à vie, mais surtout au recul économique, Ils sont de plus en plus nombreux à s'interroger de savoir si la démocratie telle que décrétée en 1990 est vraiment adaptée à l'Afrique. Entre les partisans de la démocratie comme modèle universel qui ne saurait être dévoyé, qui doit rester pur tel que le proposaient ses pères fondateurs, et ceux de plus en plus nombreux qui estiment qu'elle doit s'adapter à l'environnement, aux réalités socioculturelles, qu'elle ne saurait être figée et dogmatique, le débat s'anime. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain qui est ce dimanche à Lomé, la capitale togolaise. Avec sur ce plateau plusieurs invités très engagés sur la question. D'abord Maître Pascal Aboibor, avocat d'affaires de renommée internationale, fondateur du prestigieux cabinet Azafo & Co. Second invité de ce plateau de Lomé, un autre avocat de renom, Robert Dossou, professeur avocat au barreau de Cotonou, président de la Cour constitutionnelle du Bénin de 2008 à 2013 et ancien bâtonnier. Actuellement avocat de Rekia Madougou et Joël Aïvov, femme et homme politique soupçonnés d'être les instigateurs des affrontements violents qui ont opposé les manifestants anti-Patrice Talon aux forces de l'ordre avant le scrutin dernier. Notre troisième invitée, seule femme de ce plateau et je le déplore, est Madame Germaine Kouméalo Anaté, députée à l'Assemblée nationale, ancienne ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique du Togo. Elle est directrice du Centre d'études et de recherche sur les organisations, la communication et l'éducation, le CEROS. Elle est également enseignante et chercheure à l'Université de Lomé en sciences de l'information et de la communication. Notre quatrième invité est une voix et une figure connue de notre antenne de RFI, Didier Akwete, président d'Afrique Search, l'un des plus importants cabinets de chercheurs des têtes. Il est également le coach que vous pouvez retrouver régulièrement dans l'émission 7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide. Voilà pour notre plateau.
Je voudrais revenir sur les États-Unis. Il y a des leçons à en tirer. Premièrement,
Maître Robert Dossou,
l'État, quel qu'il soit, il lui arrive des moments de crise. Et si je compare cet État américain à nous autres, c'est que l'État américain est consolidé comme État, comme institution. Deuxième point, le fonctionnement de la démocratie aussi, lié à l'État, est appelé à connaître des crises. Et la différence entre États-Unis et nous, c'est que eux, ils ont une démocratie consolidée qui peut connaître une crise temporaire. Mais lorsque l'affaire Trump, ce qui s'est passé aux dernières élections présidentielles aux États-Unis, si ça s'était passé en Afrique, il y aurait eu plus de morts et peut-être même que Trump allait réussir à se maintenir au pouvoir. Mais si Trump est parti, c'est parce qu'il y a un État solide, il y a une tradition d'inculturation de la démocratie. Et là, je reprends quelque chose que Pascal Aboibor a dit tout à l'heure, qu'on ne veut pas attendre des siècles pour établir les règles. Non, personne n'a jamais dit ça. On établit les règles immédiatement, tout de suite. Hic et nunc, toutes les règles de la démocratie. Mais maintenant, l'apprentissage, ce que j'appelle l'inculturation, c'est-à-dire que les règles de fonctionnement de la démocratie pénètre chacun d'entre nous, gouvernant comme gouverné. C'est à ce niveau que la question se pose, de la transition, c'est-à-dire nos esprits, nos inconscients doivent se préparer à accueillir au fil de la pratique répétée. Nous sommes juristes, vous et moi, nous savons la définition de la coutume, c'est-à-dire une pratique qui a été répétée à un point tel que chacun finit par être convaincu que c'est ça qu'il faut faire.
Le réflexe.
Nous n'avons pas ça. Nous sommes entrés en démocratie avec des stigmates de parti unique, avec des tricheries énormes en tout genre. C'est ça la phase d'apprentissage.
Oui, mais quand on regarde aussi ailleurs, il ne faut pas non plus enjoliver ailleurs, ça triche.
Oui,
même dans les grandes nations dont on parle.
Mais il y a des règles qui limitent.
Mais ça triche quand même.
Et il y a des périodes aussi où ailleurs, il y a des chutes, mais on se ressaisit. Tandis que chez nous, on n'est pas...
C'est permanent.
Non, en fait, je crois que nous parlons de deux choses différentes. Si vous voulez, il y a les règles, que ce soit une démocratie, quelle qu'elle soit la forme, parce qu'il y a plusieurs formes de démocratie d'ailleurs. Ce sont les règles.
Tout le monde n'est pas toujours d'accord là-dessus.
Non, mais quand je dis plusieurs formes, ça peut être une démocratie, comme on dit, participative, une démocratie directe, non directe. Bref, les modes d'expression peuvent être différents. En quoi nous respectons ou non ces modes d'expression? Je crois que c'est le premier point. Lorsqu'on parle des États-Unis et que quelqu'un dit, ou d'autres élections, on va faire une fixation, quand on dit, attention, tu as triché, on dit, attention, la règle veut que ça se passe comme ça, et donc on respecte la règle, et donc le respect de la règle est important. C'est pour ça que même quand on remonte plus loin dans le fonctionnement de nos sociétés, quand quelqu'un viole la règle, on le punit, on l'expulse, etc., etc. Donc, c'est le premier principe. Le deuxième principe, et je crois qu'il faut absolument qu'on soit extrêmement ferme là-dessus, c'est qu'une fois que les règles ont été fixées, il faut pouvoir mettre en place des organes qui sanctionnent lorsque ces règles ne sont pas
fortes.
Respectées, y compris jusqu'à ce que les populations se rebellent. Parce que pourquoi ? Je crois que c'est aussi un choix de société. On parlait tout à l'heure du Ghana, du Bénin. Pourquoi la démocratie au Botswana fonctionne depuis aussi longtemps ? Pourquoi la démocratie fonctionne à l'île Maurice depuis aussi longtemps ? Pourquoi au Cap-Vert ça fonctionne ? C'est peut-être des petits pays. Mais en fait, c'est parce que ce sont des populations et des dirigeants qui, dès le début,
donc là, vous donnez,
ont choisi...
Vous partez sur l'autre aspect que je voulais qu'on évoque parce que le temps tourne vite et que les gens se posent la question de savoir, lorsque ça les concerne, qu'on évoque, ont envie qu'on évoque ce qui les concerne. Est-ce que c'est une question de leadership ? Est-ce que si ça marche si mal, c'est pas une question de leadership d'abord, pas seulement la question de la démocratie ?
C'est là où j'allais venir, c'est-à-dire que ces pays-là, l'incarnation du leadership veut qu'on puisse s'exprimer, et lorsqu'on s'est exprimé, qu'on respecte la règle de l'expression populaire. Et donc, il ne revient plus à l'esprit de personne de contester la règle. Donc, c'est un principe. Et puis, des leaders qui incarnent le choix de société des populations.
Or, est-ce qu'ils incarnent vraiment ? Parce qu'on a des hommes forts qui sont arrivés aussi par les armes
et
qui font marcher leur pays. Je vois beaucoup de gens, lorsqu'on parle de ça en Afrique, on vous dit, voilà le cas du Rwanda, ça marche, c'est extraordinaire.
Mais ce n'est pas l'expression des Rwandais. Il s'avère qu'il y a une situation issue d'une situation dramatique historique qui donne cette situation. Mais je ne suis pas sûr que les Rwandais soient forcément très heureux de ce système. En revanche, il y a une réponse sociale qui leur est apportée. Donc, ils se contentent de ça pour l'instant parce qu'on leur apporte une réponse sociale et qu'il y a des mots qu'ils ne déplorent pas comme l'excès de corruption, etc., etc. Donc, c'est pas un régime parfait.
Mais ça reste la question de la plupart de monsieur tout le monde qui se dit de quoi j'ai besoin ? De la démocratie telle qu'on la décrit, qui est un idéal vers lequel tout le monde aimerait aller, ou bien celui qui m'apporte le développement tout de suite, qui m'apporte à manger tout de suite ? Parce que c'est la question, il faut pas qu'on fasse semblant. Là, on a des grandes théories, mais monsieur Lambda se dit, qu'est-ce que je choisis ? Si je devais choisir entre les deux, est-ce que je ne chercherais pas d'abord à manger ? À avoir le développement,
à avoir
l'énergie.
Nous ne pouvons pas poser la question en ces termes.
Mais pourtant, c'est
l'homme
ce qui se pose comme question.
L'homme a besoin de liberté.
Oui.
L'homme a besoin autant de liberté que de pain. Lorsque vous lui donnez le pain, vous ne lui donnez pas la liberté. J'ai coutume de donner l'exemple de la Libye. Ils avaient tout. Tout était gratuit.
Mais pensez-vous qu'ils soient plus heureux aujourd'hui ?
La santé. Non, attendez. Ils avaient tout. Mais lorsqu'on leur a arraché Kadhafi, ils n'ont pas protesté, le peuple en tant que tel n'a pas protesté parce que ils avaient le mécontentement au niveau de liberté. L'homme a besoin de liberté, mais pour qu'il y ait cette liberté-là, il faut que l'État soit consolidé et que l'État fonctionne suivant les règles fondamentales de la démocratie, séparation des pouvoirs et surtout qu'il y ait la justice dans la société, que chaque citoyen sache que si tel gouverneur de région, tel ministre, tel président de la République lui fait un tort, il puisse s'adresser à un juge qui condamne le président.
Mais est-ce que cette liberté dont on parle et cette justice est seulement liée au principe démocratique ?
Le développement est un tout. Parce que l'homme est un tout. J'ai dit tout à l'heure que nous ne pouvons pas disserter sur la démocratie sans prendre en considération l'État tel qu'il est, l'État dans le stade de développement où il se trouve. Mais dans le même temps, nous ne pouvons pas parler de démocratie et d'État sans parler des droits de l'homme. On parle de démocratie.
Mais est-ce que les droits de l'homme sont seulement dans la démocratie?
Moi, je comprends sa question aussi par rapport au choix des acteurs. Certes, il faut consolider l'État. Certes, il y a la question des droits de l'homme, etc. Mais le choix des acteurs politiques qui disent défendre justement les droits de l'homme, les droits de l'homme, c'est aussi manger à sa faim. Par exemple, c'est le développement dont nous parlons.
Mais c'est être libre aussi.
Oui, c'est être libre. C'est tout cela en même temps. Mais quand certains choix des acteurs politiques montrent que, en réalité, c'est plus des intérêts partisans que ce qu'on nous fait croire en parlant des intérêts du peuple, ça nous pose un problème. Et le colloque que nous venons d'avoir, on parlait du principe de Maître Agboibor qui parlait de gestion, on va dire concerté ou contractuel, la co-gestion, qui a compris qu'à un moment donné, certains choix n'allaient pas réellement, ne permettaient pas réellement de résoudre les contradictions internes, parce qu'il faut tenir compte de cela aussi, de l'histoire de chaque peuple et des contradictions internes à chaque peuple. Alors, si les acteurs politiques ignorent ces contradictions et ne font pas ce qu'il faut, parce que c'est des préalables pour réduire ces contradictions et se donner les moyens de leur politique, ça nous retarde et on ne peut pas régler les problèmes que vous soulevez, le renforcement de l'état de droit, les droits de l'homme, etc. Et effectivement, pour le citoyen lambda, à la limite, il s'en fout de savoir comment vous procédez pour qu'il ait sa liberté, qu'il trouve à manger, qu'il puisse éduquer ses enfants convenablement, etc. Donc c'est aux acteurs politiques, aux intellectuels, à d'autres systèmes aussi de prendre conscience de tous les facteurs qu'il faut mettre bout à bout. Et là, moi, par rapport au cas du Togo et de certains pays, je pense que c'est là où les intellectuels et les acteurs, certains acteurs politiques ont failli. C'est-à-dire qu'on est derrière la course au pouvoir, la conquête du pouvoir, en négligeant tous les préalables. Quand je prends le pouvoir, comment je vais faire? Avec quelle vision, pour quel objectif, quel résultat? On ne se pose pas toujours ces questions.
Maître Abouibo.
Oui, non, encore une fois, c'est mon leitmotiv. Je pense encore une fois que si on ne fait pas attention, on risque de suggérer que nous ne sommes pas prêts pour certaines pratiques.
Maître, il y a des préalables aussi, pour ne pas aller dans le mur.
Je comprends.
Et souvent, nous courons sans prendre le temps.
Voilà, je comprends. Non, laissez-moi m'exprimer, s'il vous plaît. Dans le monde post-Covid, qui va bientôt se présenter, sur fond en plus de fragmentation, de multipolaire en réalité, parce qu'il y a tout ça à prendre en compte, ces 5 dernières années, ou sinon ces 10 dernières années, mais disons le monde post-Donald Trump par exemple. Donc la confrontation, la Chine et le monde occidental, dans un monde post-Covid où on a découvert qu'en réalité, le chacun pour soi est la seule loi qui vaille. Le monde va se réinventer. Et ça va se réinventer sur fond également de mouvements populaires, certains disent même populistes, en Afrique. Je pense qu'il faut intégrer tout ça. C'est-à-dire qu'on entre à nouveau dans un monde où les gens sont jaloux.
L'opportunité de réfléchir à nouveau
C'est ce que je veux vous dire.
Voilà.
Il y a un moment, c'est un complément.
Oui, c'est ça.
Il y a un moment qui se présente, qui va ressembler à ce que l'Afrique a connu dans les années 80, la deuxième moitié des années 80 et 1990. 1990, c'est pas tombé du ciel. C'est parce qu'il y a eu...
Justement,
il y a
c'est-à-dire
eu un monde.
Qu'aujourd'hui...
Et cette opportunité se présente. Mon propos est que ne ratons pas à nouveau ce rendez-vous. Il y a un rendez-vous sur lequel il faut pas se tromper. Et dire qu'il suffit que les gens aient du pain pour qu'ils soient contents,
il nous faut
une certaine exigence, un retour vers les principes essentiels. Et qu'avons-nous fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait raté ce rendez-vous? On avait des belles règles, des beaux principes, on a fait autre chose. C'est ce que je voulais dire au début de mon propos quand j'ai dit que nous avons défini des règles que nous n'avons pas respectées.
Non, mais c'est clair, des belles règles aussi va revenir. C'est un passage. Tout le monde parle de reflux de la démocratie aujourd'hui. Mais au cœur de ce recul sur notre continent aujourd'hui, nous avons conservé une avancée. L'avancée, je veux vous la dire, c'est que hier, le chef de l'État se lève et donne ordre, on vous prend, on vous enferme au camp. Vous y a des corvées où on vous met en prison. Aucun juge n'intervenait. Mais aujourd'hui, les chefs d'État, les gouvernements de tous nos pays instrumentalisent la justice pour qu'il y ait une couverture de droit. Ça veut dire qu'il y a une conscience.
Mais bon, le résultat reste quand même un petit peu
le même. Non, c'est une avancée.
Alors,
c'est la conscience que le droit peut être utilisé et on doit passer, même si on veut faire une injustice, on commet cette injustice en couvrant l'injustice du droit.
Tout à fait.
Mais cette phase va passer et ça va nous aguerrir pour prendre des dispositions pour que le droit joue effectivement son rôle, que la justice joue effectivement son rôle.
Mais le but,
et
je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus, le but est de repenser, de remodeler le système, de le revoir différemment, pas de façon dogmatique. Je pense que c'est de ça qu'il est question. Non,
c'est exactement ça. Moi je dis le principe de représentativité. Vous ne pouvez pas vivre sur un territoire où vous excluez des gens à travers des règles qui sont fixées, mais que vous ne respectez pas, mais qui reviennent à exclure peut-être des jeunes, les femmes, les paysans, bref, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, la règle de la représentativité est essentielle aujourd'hui.
Oui, mais maintenant...
Et on est sur un continent où il y a 70% de jeunes qui ont moins de 25 ans, vous ne pouvez pas leur enlever ce droit. Donc, de manière inéluctable, ça se fera. Et vous regarderez, vous observerez que dans les villes, que ce soit à Bamako, à Dakar, les mouvements auxquels nous assistons ces derniers temps, c'est des mouvements de revendication, d'abord de droits. Tous ces jeunes qui sont dans les rues veulent des droits. Deuxièmement, ils veulent des réponses à leurs problèmes. C'est pour ça que la démocratie, les droits humains, le développement économique et social sont intimement liés. Et chaque fois qu'aucun gouvernement ne pourra offrir ses alternatives, il y aura toujours une rébellion.
Dernière question, parce qu'on épuise le temps que nous avons.
Il a tout résumé.
On épuise le temps que nous avons. La dernière question, je me fais le porte-parole d'un certain nombre de personnes que l'on écoute de plus en plus, et je pense que la réflexion sur le modèle de gouvernance est en cours déjà, et que les intellectuels africains doivent se l'approprier. Certains vous disent, nous quand on regarde dans les pays du Golfe, dans les pays asiatiques, dans les grands pays que l'on voit un peu partout, on ne passe pas le temps à parler de démocratie, ils ne sont pas dans le modèle démocratique occidental, et pourtant ça marche. Qu'est-ce que vous leur répondez? En deux mots, là je veux donner la parole à Madame Koumé Allo. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'il faudrait regarder ce système-là de loin, ou que non, c'est pas bon pour nous?
Non, ce que nous avons dit, et je le répète, c'est que là, on ne peut plus faire marche arrière. La démocratie, nous sommes en Afrique, on a adopté ce système aujourd'hui, avec ce que ça vaut, les limites, etc. La seule chose, je dis, il ne faut pas s'auto-flageller. Les crises, c'est normal. Les imperfections, c'est normal. Ça fait partie du processus. Mais il faut être lucide sur ces imperfections, sur les difficultés, sur les nœuds d'étranglement. Donc ça demande un travail, une distance par rapport à l'objet, pour réfléchir et voir comment... Voilà, on questionne certains éléments, comment on peut innover, comment on peut réorienter en fonction de notre contexte socio-historique, psychologique, etc. Et comment on peut l'adapter par rapport à nos besoins. Parce que je dis, tout système est au service de l'homme, est au service d'une vision, au service de quelque chose. Donc nous, on ne peut pas naviguer, malgré ce système, continuer à naviguer à vue, sans...
Voilà. Quand on nous met devant les yeux un modèle, qu'est-ce que nous répondons? Nous répondons que chaque société doit évoluer selon ses paramètres endogènes en se conformant aux standards universels.
Et
il y a nécessairement des éléments et des paramètres internes à chaque pays qui va aller suivant son rythme et suivant...
ses réalités, ses coutumes, ses pratiques. Coutumes.
Mmh. Et l'exemple qu'on vous met devant les yeux peuvent servir de source d'inspiration, mais aucun modèle n'est réellement transposable.
Bien. Donc, même la démocratie telle qu'elle est arrivée n'était pas transposable. Il faut qu'on l'adapte à notre environnement.
Parce que le grand principe,
il faut que la démocratie n'est pas.
Alain, juste, il y a deux déterminants. Le principe du respect de la parole donnée, le principe du bien vivre ensemble.
On va terminer là-dessus, Didier, puisque vous faites la radio et la télévision et on arrive au terme. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir en débattre. Ce n'est que le début, j'espère. Et les Africains vont peut-être se réinventer à travers cela et trouver une meilleure gouvernance. Merci à vous. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. À très vite. Vive.